VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, 4 fidèles tués ce matin dans un attentat suicide contre une mosquée de l'extrême nord. 5 jours après une attaque similaire qui avait fait 12 morts dans une autre mosquée de la région. C'est ce qu'on apprend de sources sécuritaires. L'attentat a visé une petite mosquée du village de Ngetrewe, dans une région ciblée régulièrement par les attaques des islamistes nigériens de Boko Haram, dont les bastions sont situés de l'autre côté de la frontière avec le Nigeria. Au Gabon, début aujourd'hui des opérations de révision des listes électorales en vue des élections présidentielles et législatives prévues au second semestre 2016. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Paco Mumbele-Bebouya. Le président Ali Bongo Ondimba, élu en 2009 après le décès de son père Omar Bongo Ondimba, briguera un nouveau septennat. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été pour sa part désigné vendredi candidat unique du front de l'opposition pour l'alternance FOPA pour la présidentielle. Mais sa candidature à l'issue d'une procédure à huis clos est déjà contestée par plusieurs dirigeants de cette alliance. La République démocratique du Congo veut poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale CPI et qui devait être libéré aujourd'hui à l'issue de sa peine. Le ministre de la Justice congolais Alexis Tambwe Mwamba a fait cette déclaration à l'AFP. Il a ajouté « Germain Katanga ne sortira pas ». Indiquant que M. Katanga était impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves que celui jugé par la CPI. La justice s'intéresse notamment à son rôle présumé dans l'assassinat de 9 casques bleus dans l'est du Congo en 2005, a souligné le ministre. Crise au Burundi maintenant, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, le diplomate dénonce des violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité et une forte augmentation des disparitions forcées et des tortures dans le pays. Écoutons à ce propos Adama Dieng, qui est conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide.
Nous sommes entrés dans une phase où il y a plusieurs groupes armés. On ne sait pas qui est derrière quelle opération. Et c'est en cela que nous sommes inquiets. Et c'est pourquoi j'ai depuis toujours réclamé qu'il y ait une enquête indépendante sur toutes ces atrocités pour qu'on puisse en identifier les auteurs et les déférer devant la justice. Ceci dit, je me suis également réjoui comme le haut commissaire de la récente demande faite par le ministre de la Justice au procureur général de Bujumbura d'enquêter sur les allégations de Charnier. Je crois que c'est la bonne voie et aujourd'hui je ne peux qu'applaudir à la décision des autorités d'accepter un dialogue inclusif avec toutes les parties.
Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, maintenant, Burkina Faso, le président Boni Yayi du Bénin est arrivé à Ouagadougou pour apporter son soutien au pays après les attaques terroristes. Concernant ces attaques, une quinzaine d'étrangers, dont un enfant de 9 ans, figurent parmi les 29 personnes décédées dans cette opération djihadiste qui a frappé plusieurs hôtels et restaurants de Ouagadougou, selon un bilan établi par le procureur du Burkina Faso. Toujours concernant cette affaire, l'heure est à l'interrogation et à la prise en charge des blessés de l'attaque. En plus des 29 morts, dont d'au moins 14 nationalités étrangères, l'attaque a fait plus de 150 blessés recensés qui ont été pris en charge dans les hôpitaux de la capitale burkinabé. À travers la ville, le dispositif de sécurisation est visible et les enquêtes se poursuivent pour apporter des réponses à cette attaque. Retour sur les faits avec Issa Napon, notre correspondant sur place.
Il était déjà 19h30 quand les premiers tirs ont retenti dans l'ambiance de la nuit. Des djihadistes, dont le nombre est passé de 3 à 4 par la suite, font irruption au restaurant pâtisserie Cappuccino, qu'ils saccagent à l'arme lourde et légère, faisant sur place une dizaine de morts et de nombreux blessés. Le chemin des trois des assaillants avait croisé 20 minutes plus tôt celui d'un témoin qui n'en revient toujours pas.
Et vous voyez trois personnes qui passent où on gagne la facture. Là. Trois personnes là, ils ont mis un gros marteau comme ça avec trois kalachnikovs. En même temps, il a appelé 10-10 pour informer qu'il voyait trois personnes opposer Zaka avec les kalachnikovs. Moi, il a dit, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Ok, ils sont comme il dit, ils sont trois, mais ils sont les djihadistes, les trois personnes. Ils sont tinclés. Ils n'ont même pas pour finir. Les communications avec la police, ils sont commencés à tirer. Il a eu la chance, puisque s'ils voulaient tirer, ils peuvent me tirer. Ils sont passés à côté de moi. Comme vous voyez, avec le 15 000 cobles, c'est sorti comme ça, trois personnes, avec un gros manteau comme ça.
Les terroristes prennent par la suite des otages à l'hôtel Splendide, situé juste en face du Cappuccino. Parmi leurs otages, le ministre en charge de la fonction publique que les terroristes ne connaissent pas. Les djihadistes vont aussi brûler à la balle incendiaire tous les véhicules garés à proximité et transformer le carrefour en un gigantesque brasier. Dehors, pendant ce temps et à bonne distance, les badauds s'agglutinent en se protégeant des balles qui sifflent derrière des bâtiments en construction. À chaque flash de photo, les djihadistes répondaient par des tirs nourris. Les témoins s'énervent et tentent d'empêcher ceux qui sont les plus en colère de foncer vers les terroristes. Doucement, doucement, n'y va pas mon frère, je vais y aller, j'irai, si je meurs, vous prierez pour moi. Non, reste, reste, la gendarmerie est devant. Le théâtre des opérations sera plus tard bouclé et un assaut de plusieurs heures lancé avec l'aide des forces spéciales françaises et américaines pour venir à bout des terroristes. Cependant, les enquêtes, tout comme l'opération de sécurisation des lieux et de toutes zones stratégiques de la capitale, se poursuivent pour comprendre toutes les ramifications et les complicités, et cela au soulagement de populations encore sous le choc. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité en Afrique maintenant. En Syrie, le groupe djihadiste État islamique a enlevé au moins 400 civils, dont des femmes et des enfants, après un assaut sur la ville de Deir ez-Zor dans le pays, où il a tué au moins 135 personnes. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 40 civils, dont les enfants, ont péri dans des raids aériens sur Raqqa, le bastion djihadiste de l'État islamique dans l'est de la Syrie, ajoute cette organisation. Accord nucléaire avec l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé hier que ceux qui étaient sceptiques sur cet accord nucléaire avaient tous tort. Et c'était lors de sa première conférence de presse après l'entrée en vigueur de cet accord samedi. Ces sanctions adoptées depuis 1979 par les États-Unis, 2006 par l'ONU et 2007 par l'Union européenne ont eu des répercussions considérables sur l'économie iranienne. L'accord sur le nucléaire iranien représente la victoire de la diplomatie sur la guerre, a ajouté de son côté le président américain Barack Obama. Et écoutons à ce propos le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et actuel secrétaire général de l'Université de Yaoundé 2.
C'est une étape très importante parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même 37 ans qu'il y a eu prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Donc je pense que c'est un retournement diplomatique important, mais surtout ça a des retombées naturellement économiques de grande envergure également. De nouveaux produits pourront rentrer en Iran et l'Iran pourra également certainement être sur le marché financier international vu différemment. Il y a aussi la question du pétrole iranien, bien sûr, qui va être de nouveau disponible pour la vente internationale. Bon, c'est normal que les républicains n'apprécient pas par principe ce que font les membres de l'administration démocrate. Mais dans le cas précis, je crois que le président Barack Obama a voulu inscrire son pays dans l'histoire avant de partir, comme il l'a fait avec Cuba.
Jean-Emmanuel Pondy, professeur à l'université de Yaoundé 1. A noter que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit rencontrer aujourd'hui à Téhéran le président Hassan Rouhani, deux jours après la levée des sanctions internationales contre l'Iran. Et pour terminer, les États-Unis ont rappelé hier leurs efforts pour retrouver l'ancien agent du FBI, Robert Levinson, disparu il y a 9 ans en Iran. Et ce, quelques heures après la libération de 5 Américains dans ce pays. Robert Levinson, 67 ans, a disparu dans de mystérieuses circonstances en mars 2007, alors qu'il était déjà retraité du FBI. Et c'était sur l'île de Kish, dans le golfe arabo-persique. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.